Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'évangile avec André Choquette
et Georges Congrès.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Marc, texte de la liturgie catholique pour le 13e dimanche. Jésus traverse de nouveau en barque vers la rive opposée. Une foule nombreuse s'assemble auprès de lui. Il est au bord de la mer. Vient un des chefs de synagogue du nom de Jaïr. En le voyant, il tombe à ses pieds et le supplie fort en disant
« Ma petite fille est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. »
Il s'en va avec lui. Une foule nombreuse le suit et le serre de près. Voici une femme qui a un écoulement de sang depuis 12 ans. Elle a beaucoup souffert de la part de nombreux médecins. Elle a dépensé tout son avoir sans aucune amélioration, mais en allant plutôt plus mal. Ayant entendu parler de Jésus et étant venue dans la foule, par derrière, elle touche son vêtement, car elle se dit « Si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvée. » Aussitôt, la source de son sang tarit, et elle sent dans son corps qu'elle est guérie de ce qui l'a fait souffrir. Jésus, aussitôt, ressent en lui-même qu'une force est sortie de lui et se retourne vers la foule. Il dit
« Qui m'a touché les vêtements ?»
Ses disciples lui disent
« Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ?»
Il regarde alentour pour voir celle qui a fait cela. La femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui est arrivé, vient se prosterner à ses pieds et lui dire toute la vérité. Il lui dit
« Fille, ta foi t'a sauvée. « Va en paix et sois guéri de ce qui te fait souffrir. »
Comme il parle encore, des gens viennent de chez le chef de synagogue et disent
« Ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le maître ?»
Mais Jésus, ayant saisi la parole qu'ils ont dite, dit au chef de synagogue
« Ne crains pas, aie seulement confiance. »
Il ne laisse personne l'accompagner, sinon Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils vont à la maison du chef de synagogue. Il aperçoit un tumulte. Des gens pleurent et poussent des cris stridents. Entrant, il dit
« Pourquoi ce tumulte et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. »
Ils se moquent de lui, mais il les met tous dehors. Il prend avec lui le père de l'enfant, la mère et ceux qui sont avec lui. Il entre là où est l'enfant. Saisissant la main de l'enfant, il lui dit
« Talita kumi. »
Ce qui se traduit
« Jeune fille, je te le dis, réveille-toi. »
Aussitôt, la jeune fille se relève et marche. Oui, elle a 12 ans. Ils sont hors d'eux-mêmes, totalement hors d'eux-mêmes. Il leur recommande fortement que personne ne sache cela. Et il dit de lui donner à manger.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. Deux récits de retour à la vie qui peuvent nous paraître trop merveilleux. Surtout le retour à la vie de la jeune fille. Quel sens peuvent alors avoir ces récits pour le quotidien de nos vies de chrétiens?
Alors regardons où se situe le texte. Après l'enseignement en parabole qui forme le chapitre 4, Marc veut nous montrer comment Jésus est puissant aussi dans ses gestes de guérison. Il a signalé la guérison d'un païen dans le territoire de la Décapole, un païen qui va même devenir le témoin de Jésus. Et notre récit manifeste la confiance d'une femme et d'un chef de synagogue. Ces trois miracles sont encadrés par deux épisodes où Jésus se heurte à un manque de foi. D'abord, de la part des disciples dehors de la tempête sur le lac.
Pourquoi avez-vous peur? Vous n'avez pas encore de foi?
Et ensuite, au chapitre 6, de la part de ses compatriotes de Nazareth. Notre texte. Eh bien, nous avons deux récits imbriqués l'un dans l'autre. Pourquoi? Peut-être est-ce dû à un mot crochet qui les relie et qui serait alors peut-être le chiffre 12. 12 pour la durée de la maladie de la femme, 12 ans, et 12 pour les 12 ans qui sont l'âge de la fille mourante. Mais
Ces récits sont peut-être imbriqués tout simplement parce qu'historiquement, cela s'est déroulé ainsi.
Voici une femme qui a un écoulement de sang depuis 12 ans.
Oui, cette femme, souvenons-nous, est rituellement impure en raison de son épanchement de sang. Rappelons ce que dit le texte du Lévitique.
Lorsqu'une femme aura un écoulement de sang de plusieurs jours, elle sera dans le même état d'impureté que pendant le temps de ses règles. Tout meuble sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque les touchera sera impur, devra nettoyer ses vêtements, se laver à l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera guérie de son écoulement, elle comptera 7 jours, puis elle sera pure.
Le contact avec cette femme est donc interdit pour celui qui veut rester pur. Et cela explique sans doute sa discrétion. Elle touche Jésus par son vêtement, mais c'est dans son dos. Elle a pris soin d'ailleurs d'accomplir son geste, alors que Jésus est pressé de tous côtés par la foule. Et on comprend aussi sa crainte lorsqu'elle se sent découverte, car son geste va rendre impur celui qu'elle a touché. Mais sa confiance en Jésus lui avait permis de dépasser tous ses interdits. Spontanément, sa foi lui a fait croire que la sainteté de Jésus était plus forte que sa propre impureté. Ce geste, il peut nous paraître un peu superstitieux. Toucher le vêtement de quelqu'un, est-ce que cela peut guérir ? Souvenons-nous que dans la conception du temps, le vêtement est comme le symbole de la personnalité de celui ou de celle qui le porte. Mais rappelons-nous aussi que ce geste est encore fréquent de nos jours. Quel fan ne veut-il pas toucher son idole, ou au moins toucher son vêtement ? On fait aussi collection d'objets qui ont appartenu à des gens célèbres et on considère comme porteuses de bienfaits les reliques des saints. Mais donnons quelques exemples de cette importance du toucher dans les évangiles. Souvent, ce sont les malades qui veulent avoir contact avec le rabbi qui guérit.
Car il en guérit beaucoup, si bien que tous ceux qui avaient des infirmités se jetaient sur lui pour le toucher. Et en tout lieu où il pénétrait, village, ville ou ferme, on mettait les malades sur les places et on le priait de les laisser toucher, ne fût-ce que la frange de son manteau, et tous ceux qui le touchaient étaient sauvés. Ils arrivent à Bethsaïde et on lui amène un aveugle en le priant de le toucher.
Cette attitude va non seulement concerner Jésus, mais aussi les apôtres après le départ de Jésus.
Par les mains des apôtres, il se faisait de nombreux signes et prodiges parmi le peuple, à tel point qu'on allait jusqu'à transporter les malades dans les rues et les déposer là sur des lits et des grabats, afin que tout au moins l'ombre de Pierre, à son passage, couvrît l'un d'eux. Dieu opérait par les mains de Paul des miracles peu banals, à tel point qu'il suffisait d'appliquer sur les malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais s'en allaient.
Voilà deux passages donc des Actes des apôtres. Mais on peut aussi noter que souvent, c'est Jésus lui-même qui va toucher le malade.
Un lépreux vient à lui, le supplie et s'agenouillant, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Ému de compassion, il étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. »
Avec le sourd-muet et l'aveugle, le geste de Jésus rejoint les gestes habituels des thaumaturges, des guérisseurs de son temps.
Le prenant hors de la foule à part, il lui mit ses doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Ils arrivent à Bethsaïde et on lui amène un aveugle en le priant de le toucher. Prenant l'aveugle par la main, il le fit sortir hors du village. Après lui avoir mis de la salive sur les yeux, lui avoir imposé les mains, il lui demandait « Aperçois-tu quelque chose ?»
Dans ce toucher, Jésus s'investit tout entier pour transmettre un peu de la sainteté de son amour, sainteté qui viendra pénétrer le cœur et le corps de celui qui l'accueille avec confiance. Ce toucher, d'ailleurs, ne concerne pas seulement la guérison. Jésus ne craint pas de manifester sa tendresse en touchant les petits-enfants.
On lui présentait des petits-enfants pour qu'il les touchât, mais les disciples les rabrouèrent. Ce que voyant, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume de Dieu. »
En laissant la pécheresse le toucher, Jésus ne lui permet-il pas d'avoir contact avec sa bonté et sa tendresse.
Se plaçant par derrière à ses pieds tout en pleurs, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes et les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, les oignait de parfums.
les chrétiens utiliseront aussi le geste de l'imposition des mains pour demander à l'Esprit de venir dans une personne afin de la guérir ou bien de lui donner la force d'accomplir sa mission.
Ananie partit, entrant dans la maison, imposa les mains à Saul et lui dit « Saul, mon frère, celui qui m'envoie, c'est le Seigneur, ce Jésus qui t'est apparu sur le chemin par où tu venais. Et c'est afin que tu recouvres la vue et sois rempli de l'Esprit-Saint. » Justement, le père de Publius, en proie aux fièvres et à la dysenterie, était alité. Paul alla le voir et pria, lui imposa les mains et le guérit. Pierre et Jean se mirent à leur imposer les mains et ils recevaient l'Esprit-Saint. Or, un jour, tandis qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit-Saint dit, « Mettez-moi donc à part Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent à leur mission.
Voilà donc quelques exemples pris dans les Actes des apôtres. C'est d'ailleurs encore ce geste qui est repris pour les baptêmes et les ordinations. Pour être accompli dans toute son ampleur, le geste de la bénédiction ne devrait-il pas d'ailleurs comporter l'imposition des mains sur la tête de celui sur qui on demande à l'Esprit Saint de venir ? Mais nous sommes bien souvent trop rationnels et trop cérébraux dans notre manière de prier. Nous faisons trop peu d'attention à l'attitude du corps, alors que cette attitude, comme la beauté du chant, comme le décor, tout cela va donner une qualité à notre prière. Empruntons quelques passages au journal de voyage de Xavier Graventirol, un jeune qui fait un voyage en Inde où il participe aux séances de yoga d'un ashram.
Oui, prier, plus seulement avec les mots, avec la tête ou en écoutant, mais par le corps, en dansant. Monchanin a raison. Cependant, quand il dit qu'il peut y avoir un danger d'égocentrisme dans le yoga, à n'avoir conscience que de soi. Mais si ces exercices deviennent un hymne, un don, une oblation, « Je te donne mes mains pour qu'elles te servent, je te remets mes pieds afin qu'ils te suivent, « Je te remets mon cœur, mes yeux, mes jambes. » J'ai envie d'explorer plus profondément cette prière du corps. Ne négligeons-nous pas trop souvent ce corps au point d'en souffrir souvent. Je sais que déjà à Montréal, j'éprouvais le besoin le matin de faire des petits exercices. Comme si prier mentalement ne suffisait pas. Certains jouent de la musique, moi je rêve de danser. L'important est que le mouvement indique la prière, soit prière. Le corps est beau, si beau. Je m'émerveille devant chacune des parties. Les chants aussi. Nous sommes trop mentaux. Je le suis en tout cas. Se laisser aller à la joie de chanter avec le corps, à l'improviste, nous n'osons plus, je n'ose plus.
Mais pour le chrétien, le toucher n'a-t-il pas une importance encore plus grande, plus profonde, lorsqu'il s'agit de la personne même de Jésus ? Écoutons le début de la première lettre de Jean.
Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée, nous l'avons vu, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue.
La foi en Jésus de Nazareth, le Fils bien-aimé du Père, n'est pas en effet d'abord une notion, une idée. Elle est essentiellement un contact, une connaissance intime qui doit nous permettre de vivre une amitié bien réelle avec celui qui nous appelle par notre nom. Oh, certes, nous n'avons pas la même approche que les disciples qui ont vécu avec lui pendant les années de mission, mais la rencontre de Jésus que nous devons faire n'en est pas moins, d'une certaine manière, corporelle. Le récit des apparitions du ressuscité aux disciples d'Emmaüs nous en donne sans doute le modèle.
Comme il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais avaient disparu de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures ?»
Eh bien, ce que nous enseigne ce récit d'Emmaüs, c'est que deux gestes doivent permettre aujourd'hui la rencontre de Jésus. Le premier, rompre avec lui le pain dans un repas d'action de grâce envers le Père, et le second, l'écouter nous expliquer le sens de sa vie et de la nôtre à travers l'Évangile. Oh certes, on peut se plaindre souvent que l'Évangile ne nous parle pas, mais n'est-ce pas que nous ne l'avons pas assez ruminé ? Lorsque nous avalons la nourriture, nous nous empêchons de la goûter. Nous ne lui permettons pas de nous révéler ses odeurs, ses saveurs. Eh bien, ainsi en est-il de la parole. La parole ne livre ses secrets que si on prend le temps de la savourer. Les gestes concrets d'un vrai repas, d'un réel dialogue autour de l'Évangile, sont aussi nécessaires à la réalité de la rencontre, aussi nécessaires que le toucher de la femme était nécessaire, ce toucher par lequel passait ce rayonnement de l'amour de Jésus qui allait la guérir. Alors il faut du vrai pain, il faut un véritable échange entre les convives autour de la parole et une parole que chacun aura déjà lue et priée pour se préparer au dialogue. Et il faudra aussi livrer un peu de sa vie quotidienne au regard des frères et des sœurs chrétiens pour qu'il puisse nous aider à mieux incarner la parole dans notre vécu. L'être humain est charnel et spirituel, l'un et l'autre, jamais l'un sans l'autre. La guérison physique de la femme nécessitait sa confiance en l'amour fort de Jésus, cet amour qui pouvait la guérir de ce qui la faisait souffrir. Comme l'amour de Jésus et son pardon vont se traduire plus tard par le lavement des pieds de Pierre. Les gestes de Jésus se continuent aujourd'hui dans les gestes de ses disciples. Le baptême se vit par l'imposition des mains, par le toucher de l'Éphata, par l'onction du crème. Le pardon, eh bien, il devrait sans doute se traduire dans une accolade qui soit don de la paix du Christ. L'Eucharistie, elle doit redevenir le repas dans lequel Jésus l'a inscrite, et il n'est pas indifférent pour que ces gestes soient féconds de vie, que ceux qui les posent les vivent intensément, en les imprégnant de toute la force spirituelle qui est en eux.
Saisissant la main de l'enfant, il lui dit « Talitha koumi », ce qui se traduit « Jeune fille, je te le dis, réveille-toi ».
Les évangiles ont conservé très peu de mots en araméen qui est la langue maternelle de Jésus. Il y a un autre exemple qui concerne la guérison du sourd-muet.
Le prenant loin de la foule à l'écart, Jésus, levant son regard vers le ciel, soupira. Il lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ».
Koumi, eh bien, cela signifie « debout ». Et Marc le traduit par « réveille-toi ». Nous avons, nous aussi, dans notre langue, ce rapprochement entre ces deux images. Ne dit-on pas à quelqu'un que l'on vient réveiller « lève-toi, c'est l'heure ». Ces deux images, de se relever et de se réveiller, sont proches. Et elles traduisent toutes deux le réveil du sommeil. Ces termes traduiront aussi dans les évangiles la résurrection de Jésus.
Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il s'est réveillé. Il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé.
Jésus surprend peut-être par sa réaction devant les cris des pleureuses.
Pourquoi ce tumulte et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort.
Cette attitude de Jésus vis-à-vis de la mort, dont il parle comme d'un sommeil, nous la retrouvons dans l'épisode de Lazare.
Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui dirent donc, « Seigneur, s'il est endormi, il sera sauvé. » En effet, Jésus avait voulu parler de la mort de Lazare, alors qu'ils se figuraient, eux, qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort, et je suis heureux pour vous de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez, mais allons à lui. »
Alors comment comprendre cela? Beaucoup
de commentateurs modernes qui ont des difficultés avec les miracles de Jésus ont encore plus de réserves quant aux résurrections. Alors ils s'efforcent de comprendre ces récits comme ils étaient des récits symboliques, mythiques. Ils parlent ici de résurrection spirituelle au sens figuré. Je pense qu'il nous faut être attentifs à ne pas réduire les faits des évangiles au niveau de nos connaissances actuelles ou de nos ignorances actuelles. Mais d'autres auteurs, et comme Jean-Yves Leloup, ne partagent pas cette vision réductrice, rationnelle.
Ces résurrections sont des symboles, mais des symboles concrets. Yeshua a réellement tiré de la mort le fils de la veuve de Naïm, la fille de Jaïr et son ami El-Hazar. À l'heure où les techniques de réanimation sont les plus sophistiquées, pourquoi faut-il que cela étonne? N'a-t-on pas recueilli les témoignages de personnes ayant connu un coma profond ou même ayant été déclarées cliniquement mortes? Que savons-nous du moment de la mort? L'électroencéphalogramme plat est-il un critère suffisant? Les traces trouvées dans certains cercueils témoignent que beaucoup d'hommes et de femmes ont été enterrés vivants. Le principe d'information ou d'animation d'âme, en langage philosophique ou religieux, peut cesser d'informer la matière de l'être humain qui alors se décompose. Ce principe d'information rappelé dans la dimension matérielle de l'être humain peut parfois le recomposer, informer de nouveau ses atomes et ses cellules de façon cohérente.
Pour prendre des comparaisons, un tas de pierres a besoin d'être informé pour devenir une maison. Des fleurs éparses ne deviennent un bouquet qu'informées par une pensée. Lorsque Jésus parle de sommeil pour la fillette et pour Lazare, ne parlerait-il pas du sommeil de notre âme qui n'informe plus notre corps? On sait que la tradition juive la plus ancienne parle du séjour des morts, le Sheol, comme d'un lieu où le défunt est dans une sorte de léthargie. La vision grecque, qui fait de l'âme un principe immortel, était connue des Juifs au temps de Jésus, et elle a sans doute pu influencer la croyance en la vie dans l'au-delà. La mort physique laisserait donc l'âme dans une sorte de sommeil, et la résurrection serait l'œuvre de Dieu, réveillant cette âme et lui permettant de réinformer à nouveau des cellules pour en faire une unité vivante, un nouveau corps qui serait plus spiritualisé que notre corps actuel. Ce réveil de l'âme est l'œuvre de l'amour de Dieu, de Dieu qui fait don de le connaître en plénitude. En effet, si Jésus peut réveiller l'âme, n'est-ce pas parce qu'il vit dans une connaissance plénière du Père, parce qu'il est pleinement envahi par l'amour du Père qui le fait vivre? C'est parce qu'il est le chemin de la connaissance du divin qu'il est par le fait même le chemin de la résurrection et de la vie. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. »
Ma petite fille est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive.
La langue araméenne n'a pas de verbe pour dire sauver. Elle traduit cette idée par une expression qui signifie donner la vie. Sauver, c'est donc rendre quelqu'un à la vie, lui redonner une qualité de vie qui était perdue. Le salut n'est pas seulement de croire que Dieu existe. La lettre de Jacques, d'ailleurs, le dit fort bien.
Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais les démons le croient aussi et ils tremblent.
Le salut, c'est de croire que l'amour de Dieu est ce qui fait vivre de la vie véritable et c'est d'ouvrir son cœur pour l'accueillir. On ne peut donc sauver quelqu'un sans qu'il accueille le don de la vie qu'on lui offre. Et cela explique sans doute pourquoi Jésus est réduit au silence devant ses compatriotes de Nazareth.
Il ne pouvait faire là aucun miracle et s'étonnait de ce qu'il ne croyait pas.
Cela explique aussi la réplique constante de Jésus, « Ta foi t'a sauvé ». La foi, la confiance, unit deux agir, deux volontés. Elle permet ainsi à l'amour de Jésus et de son disciple
de se conjuguer pour créer de la vie, une vie surabondante.
Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et nul ne les arrachera de ma main.
Celui qui accueille ainsi la vie de Jésus en son âme aura la force d'orienter lui aussi sa vie sur l'amour et donc sur la vie d'éternité. Voilà l'espérance qui anime la vie du disciple de Jésus, qui l'anime pour aujourd'hui et pour la vie immortelle.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
514-256-4110. Vous pouvez aussi vous abonner, pour 3 mois, 6 mois ou 1 an, au feuillet ou aux cassettes. Téléphonez-nous, nous vous donnerons les renseignements exacts. Nous vous signalons également qu'à partir du mois de septembre, un nouveau parcours d'initiation à l'Évangile aura lieu tous les mardis soirs pendant 16 semaines de septembre à Noël. Pour avoir des renseignements sur ce parcours, téléphonez au 931-7311 et demandez Monique Paquin, 931-7311.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.